Grand Angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour. L'escalade entre Israël et les États-Unis et l'Iran fait craindre un basculement vers un conflit régional majeur aux conséquences mondiales après les frappes états-uniennes et israéliennes samedi sur l'Iran et la réponse de Téhéran. Notre invité, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Tout simplement, peut-on parler aujourd'hui de logique potentielle d'engrenage incontrôlable suite aux derniers développements?
Alors, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, mais effectivement, on peut jamais exclure. Hein, parce qu'on sait comment on commence une guerre, on sait rarement comment on la termine. Il y a des aléas qui sont toujours des imprévus, et donc il y a toujours le risque. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, il y a quand même une escalade, en tout cas, puisque par rapport à la guerre dite des 12 jours, il y a une multiplicité de théâtres qui sont concernés, notamment dans les pays du Golfe, qui sont des cibles effectives, pas seulement des cibles militaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les bases militaires américaines, mais on a vu qu'un certain nombre de tirs ont été effectués sur des cibles civiles, avec des pertes humaines, et donc ça suscite évidemment une grande inquiétude, parce que il y a une possibilité de dérapage, évidemment, de plus en plus importante.
Comment expliquez-vous justement que les civils soient directement ciblés?
Alors, a priori, les Iraniens visaient d'abord en priorité les cibles militaires. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une fuite en avant, avec l'idée de provoquer une panique, un chaos, pour une perturbation générale de l'ensemble de la région. Ce qui avait été un peu, d'ailleurs, anticipé, enfin en tout cas formulé de manière anticipée par certains responsables iraniens en disant que ça faisait partie de leur logique de dissuasion. Et ce n'est pas qu'une logique de dissuasion, puisqu'il passe effectivement, concrètement, ça se traduit par des tirs effectifs, que ce soit sur les Émirats, sur le Qatar, sur l'Arabie Saoudite et le Koweït. Et puis il y a la question évidemment de la pression sur les flux maritimes, notamment avec la problématique de la fermeture du détroit d'Ormuz.
L'Iran joue-t-il le temps long? Est-ce une certitude aujourd'hui?
Alors, il avait joué le temps long jusqu'à présent, mais aujourd'hui, il y a une accélération du tempo militaire qui fait que l'Iran ne pourra pas tenir des semaines. D'abord parce qu'il y aura, en termes capacitaires, il y a une guerre d'attrition très forte qui est menée par les États-Unis. Et donc, ce qui fait essentiellement la dissuasion et la menace iranienne pour les autres pays de la région, c'est le balistique. Les stocks ne sont pas inépuisables, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, et on le voit aujourd'hui hein, avec les frappes sur Israël et sur les pays du Golfe. Même s'il y a une planification justement américaine qui prévoit potentiellement plusieurs semaines, mais il y a un moment de toute façon où il y aura un effet de seuil limitatif, pour les deux d'ailleurs, pas pour les mêmes raisons, mais pour les deux, politiquement pour Donald Trump, et en termes de ressources militaires pour les Iraniens.
Et pour les États-Unis et pour Israël, l'objectif est-il de faire imploser le régime de l'intérieur?
Aujourd'hui, c'est de plus en plus ce qui semble effectivement à l'ordre du jour. Ce n'était pas forcément l'agenda initial du président Donald Trump. C'était plus celui évidemment des Israéliens. Mais aujourd'hui, le président Donald Trump a considéré probablement qu'il n'y avait pas d'alternative à un changement de régime, non pas sur le modèle irakien, bien sûr, de 2003, mais sur le modèle d'un régime collapse, c'est-à-dire de faire imploser le régime de l'intérieur en visant à la fois ses capacités militaires et puis les représentants du régime. Et on le voit avec l'élimination qui a été faite du guide suprême, Ali Khamenei, avec une quarantaine d'autres hauts responsables. Donc il y a incontestablement une logique d'implosion en pariant sur une dynamique interne, parce qu'il n'est pas question d'imposer une transition, mais ce qui semble souhaité, c'est effectivement qu'émergent des acteurs susceptibles d'assurer en interne une transition.
La France et l'Union européenne sont-ils hors-jeu dans ce conflit?
Hors-jeu, non, pas totalement. D'abord parce qu'on est exposé, entre guillemets. Il faut rappeler que la France a une grande base interarmes à la fois navale, terrestre et aérienne, la base 104, aux Émirats, donc avec des obligations dans le cadre d'un accord militaire, comme c'est le cas d'ailleurs avec le Qatar, à un autre niveau. Et puis par ailleurs, on a vu qu'il y avait un tir de missile qui avait approché de Chypre. Et Chypre fait partie de l'Europe. Donc l'Europe est concernée, de toute façon, notamment par cette problématique balistique.
L'Europe est concernée. Quelle est sa marge de manœuvre aujourd'hui?
Pour l'instant, les Européens ne sont pas des acteurs du conflit. C'est un conflit qui est israélo-américain contre le régime iranien. Mais évidemment, on suit ça avec une extrême prudence et inquiétude, parce que justement avec le risque de déstabilisation, de dérapage. Et puis, il y a la question, évidemment, de l'impact économique avec le pétrole. Donc, rien n'est jamais sans conséquences.
Quelle analyse faites-vous de la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, samedi, qui a évoqué, justement, cette action unilatérale sans concertation?
Oui, ça reprend effectivement le positionnement européen qui se veut, d'abord, qui renvoie à la problématique du droit international. Et évidemment, c'est une opération qui n'est pas passée par le Conseil de sécurité de l'ONU, bien sûr. Ça n'aurait pas été validé, du reste, avec l'obstruction à la fois russe et chinoise. Mais au-delà, il y a un certain embarras des Européens, parce que ça montre aussi leur incapacité de peser sur les événements. On le voit à la fois sur en termes d'initiative et de conséquences potentielles. Donc c'est un embarras, et en même temps on est concerné au premier chef, puisque j'évoquais le risque balistique ou le risque de déstabilisation économique. Donc c'est très compliqué pour les Européens aujourd'hui.
Une Europe de la défense reste-t-elle envisageable, ou alors plus que nécessaire?
C'est une nécessité. La question, c'est comment y parvenir. C'est le viatique, effectivement, d'une souveraineté européenne, entre guillemets, défendue par Emmanuel Macron, mais avec des synergies plus ou moins effectives avec ses partenaires européens. Donc on en est encore très loin, alors même que l'urgence de la situation, évidemment, devrait y pousser.
Justement, quand Emmanuel Macron souligne que la voie diplomatique doit être privilégiée, il l'a redit après les frappes. Est-ce une forme d'aveu d'impuissance?
En tout cas, ça acte le fait que les Européens ne sont pas des acteurs de ce qui est en train de se dérouler. Ils sont plutôt des spectateurs inquiets et engagés en termes de responsabilité. Mais effectivement, de ce point de vue-là, l'Union européenne est un peu en retrait par rapport, subit un peu, on va dire, l'histoire qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient et plus largement.
Depuis quand la France perd du terrain en termes d'action diplomatique au Proche et au Moyen-Orient?
Ce sont les Européens en général, globalement, effectivement. La France, alors ça dépend sur quel registre, parce que la France est un pays détenteur, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, ce qui lui assure quand même un statut particulier, ne serait-ce qu'au Conseil de sécurité. Mais globalement, il y a effectivement une dévaluation stratégique des Européens dans le devenir historique mondial actuel. Et c'est un vrai problème qui impose une Union européenne à tous les niveaux, à la fois politique, stratégique, militaire, au-delà de ce qui avait été la construction économique et financière et monétaire de l'Europe jusque-là.
Le fameux Conseil de la paix créé par Donald Trump peut-il jouer un rôle dans ce conflit? Et la France peut-elle être contrainte, justement, à y participer?
Pour l'instant, il y a une grande distanciation par rapport à ce Board of Peace. Et d'ailleurs, il y a une certaine ironie au regard de la situation, puisque Board of Peace, effectivement, qui a vocation à se présenter comme un substitut à l'impuissance de l'ONU, mais qui est promu par le président Donald Trump, qui se trouve aujourd'hui engagé dans une opération militaire de grande envergure. Donc les choses sont éminemment complexes et parfois paradoxales.
Un grand merci, David Rigoulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci à vous.
Merci à vous,
chers auditeurs. Et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.